Selon les Écritures. Selon les Écritures, le père Alain Marchadour, bibliste, dialogue avec Pierre-Yves Révillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission biblique Selon les Écritures. Pierre-Yves Révillon au micro, avec le père Alain Marchadour, bibliste.
Bonjour père Alain.
Bonjour Pierre-Yves.
Dans les deux précédentes émissions, nous avions commencé à relire les épisodes clés de la vie et de la vocation de Moïse au chapitre 2 et 3 du livre de l'Exode. Son enfance en Égypte, sa première rencontre avec Dieu à l'Horeb, son envoi en mission en Égypte et la révélation du nom divin. Nous savons que Moïse a ensuite accompli sa mission de libération des Hébreux de l'esclavage avec les épisodes bien connus de la sortie d'Égypte, de la traversée de la mer Rouge et de la marche dans le désert. Nos auditeurs pourront les relire avec profit chez eux. Aujourd'hui, nous retrouvons Moïse au pied du mont Sinaï pour revivre deux grands événements fondateurs, la confirmation de l'Alliance divine et le don de la loi du Décalogue. Nous reprenons notre lecture au verset 1 du chapitre 19 de l'Exode. Le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, les Israélites atteignirent le désert du Sinaï. Ils campèrent dans le désert en face de la montagne. Moïse alors monta vers Dieu. Yahvé l'appela de la montagne et lui dit « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob. » Tu déclareras aux Israélites, « Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait aux Égyptiens et comment je vous ai emporté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, je vous tiendrai pour mon bien propre parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi. Je vous tiendrai pour un royaume de prêtres, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. » Moïse alla et convoqua les anciens du peuple et leur exposa tout ce que Yahvé lui avait ordonné. Et le peuple entier, d'un commun accord, répondit « Tout ce que Yahvé a dit, nous le ferons. » Moïse rapporta à Yahvé les paroles du peuple. Yahvé dit à Moïse « Je vais venir à toi dans l'épaisseur de la nuée, afin que le peuple entende quand je parlerai avec toi et croie en toi pour toujours. » Nous venons d'assister à une nouvelle théophanie. Dieu appelle Moïse dans la montagne du Sinaï et lui demande de transmettre un message au peuple des Israélites concernant une offre d'alliance. Comment décrypter cette offre de Yahvé, père Alain ? Que propose-t-il et qu'attend-il en retour ?
Oui, alors à travers votre question, vous nous renvoyez un peu à l'intrigue de l'Exode. Nous avons vu dans mes émissions précédentes, le cœur de cette révélation de Dieu qui vient donner à la fois son nom, son identité à Moïse. C'est un nom qui est un nom pas simplement pour la connaissance, mais c'est un nom pour la route. Et ce nom va prendre toute sa signification justement dans ces chapitres que nous venons de lire et qui nous décrivent au fond ce projet que Dieu va avoir sur l'homme, sur ce peuple, sur les Israélites, comme on les appelle, les fils d'Israël. Et c'est ce moment fort de l'histoire que nous allons maintenant aborder. On pourrait dire il y a deux grands pics dans le livre de l'Exode. Vous avez bien sûr la révélation de Moïse, c'est-à-dire ce Dieu qui vient, qui se révèle dans cette appellation que nous avons déployée dans les mois précédents, dans les journées précédentes. Et ici, maintenant, nous voyons l'objectif, au fond, de ce Dieu qui se révèle. Ce n'est pas une révélation pour une révélation, c'est une révélation pour un projet, pour un chemin, pour un peuple, comme le texte que nous venons de lire le signifie. Donc on est dans une deuxième étape, mais fondamentale, au cœur de ce livre, qui est, on pourrait dire, le cœur même de tout le Pentateuque. C'est le livre de la révélation de Dieu et de la mission que Dieu va donner à un peuple, avec cette phrase que vous avez soulignée et qui est très importante. Lorsque le peuple répond, tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. Nous savons bien que la réalité sera malheureusement moins bonne, puisqu'ils vont trahir, mais il y a un lien, il y a une alliance qui est posée. Et c'est cette alliance qui va avancer, faire avancer le peuple tout au long de l'histoire du salut.
Et il y a peut-être aussi le choix précis de ce peuple, parce qu'il y a quand même une phrase qui est très forte où Dieu dit « Je vous tiendrai pour mon bien propre parmi tous les peuples ».
Oui, dans la tradition biblique, il y a cette idée que Dieu a choisi un peuple. Ce choix est évidemment un choix arbitraire, dans la mesure où on ne sait pas pourquoi Dieu a choisi ce peuple. D'ailleurs, ce peuple n'existait pas. Il s'est façonné au moment où Dieu l'a choisi, mais aujourd'hui, à travers les connaissances que nous avons de l'histoire, nous savons bien que au départ, les Hébreux, c'était des peuples qui étaient assez répandus dans le Proche-Orient. C'est les fameux, depuis qu'on a découvert, l'archéologie nous a beaucoup apporté sur ce plan-là, depuis qu'on a découvert le peuple des Hapirous. Hapirous, c'était ces gens qui circulaient dans le Proche-Orient avec leurs troupeaux. Or, tout le monde a compris, quand on a appris les langues sémitiques, que Hapirous, le radical de ces trois lettres, c'est Héber, c'est Hébreu. Hapirous, c'était des Hapirous. C'est-à-dire, Dieu a choisi parmi ces Hébreux un groupe qui va devenir, au fond, son peuple, qui va s'appeler fils d'Israël. C'est ça le vrai nom qu'il va lui donner. C'est-à-dire, c'est mon peuple. Il dit souvent cette expression, on l'a déjà évoqué, mon peuple, et puis fils d'Israël, c'est-à-dire fils de cet Israël qui regroupe les 12 tribus. Enfin, c'est tout cela qui est en chemin. Et donc, nous sommes là dans un dévoilement, on pourrait dire une alliance qui est en train de se nouer, finalement, puisque Dieu, c'est pas seulement une révélation, parce qu'on aurait pu dire, bon, ça suffit, un peu comme une apparition. On a une apparition, puis on s'en va, c'est fini. Non, c'est le début d'une aventure, c'est pas la fin d'une aventure.
Alors, ce peuple, selon les traditions, est appelé soit les Hébreux, soit les Israélites. Quelle est la vraie dénomination, en fait, à partir de l'hébreu ?
Alors, il y a plusieurs appellations. Le plus fréquent, peut-être, qu'on trouve dans l'Exode, c'est Dieu qui parle de mon peuple, c'est-à-dire c'est un peuple. Quand on dit peuple, évidemment, on dit quelque chose de différent d'une foule. Un peuple, ça a une identité, ça a une vie, ça a une construction. Donc, c'est un peuple, et puis surtout, fils d'Israël se trouve souvent. Écoutez, fils d'Israël, c'est une expression qu'on trouvera souvent. Et c'est les Israélites, on traduit quelquefois, fils d'Israël. Hébreu va disparaître un peu. Hébreu étant une entité beaucoup plus large, qui va disparaître au profit de fils d'Israël surtout, le peuple de Dieu, mon peuple, le reste aussi, il y aura cette appellation qu'on trouvera quand il y aura tellement d'infidélité d'Israël, il n'y aura plus qu'un reste, et ce reste va aller jusqu'à nous, chrétiens, puisque nous sommes aussi les héritiers avec le peuple juif de cette révélation.
Alors nous allons poursuivre la lecture donc de ce récit de l'Exode, toujours au chapitre 19, avec plusieurs extraits, donc versets 16 à 17, et ensuite chapitre 20, versets 1 à 18. Or, le surlendemain, dès le matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne, ainsi qu'un très puissant son de trompe, et dans le camp, tout le peuple trembla. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se tinrent au bas de la montagne. Yahvé appela Moïse au sommet de la montagne, et Moïse monta. Dieu prononça toutes ces paroles et dit « Je suis Yahvé, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux, là-haut, ou sur la terre, ici-bas, ou dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas, car moi, Yahvé, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants pour ceux qui me haïssent, mais qui fait grâce à des milliers pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prononceras pas le nom de Yahvé, ton Dieu, à faux. Tu te souviendras du jour du Shabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras, mais le 7e jour est un Shabbat pour Yahvé, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, Yahvé a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi Yahvé a béni le jour du Shabbat et l'a consacré. Honore ton père et ta mère, afin que se prolongent tes jours sur la terre que te donne Yahvé ton Dieu. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de témoignage mensonger contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, la femme de ton prochain, ni rien de ce qui est à ton prochain. Tout le peuple, voyant ces coups de tonnerre et la montagne fumante, eut peur et se tint à distance. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous, toi, et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, car alors c'est la mort. » Moïse dit au peuple, « Ne craignez pas, c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, pour que sa crainte vous demeure présente et que vous ne péchiez pas. » Le peuple se tint à distance et Moïse s'approcha de la nuée obscure où était Dieu. Nos auditeurs ont bien sûr reconnu le célèbre récit du don des 10 paroles du Décalogue à Moïse, dans une théophanie spectaculaire et sonore. On notera au passage que l'expression « 10 commandements » ne figure pas dans la Bible. Nos auditeurs savent aussi à quel point ce texte est fondateur pour le judaïsme et le christianisme. Que sait-on, Père Alain, sur l'histoire de sa rédaction? Comment peut-on l'aborder aujourd'hui?
Alors, votre question, évidemment, est une large question pour laquelle on n'a pas d'éléments très précis. Le Décalogue, c'est un ensemble qui a eu une longue histoire. Tout à l'heure, nous évoquerons le fait que nous avons 2 versions du Décalogue. On y reviendra tout à l'heure. Mais je voudrais juste, parce que c'est essentiel, je crois, si on veut donner toute sa signification à cette partie du texte. C'est un moment fort, bien sûr, c'est un moment intense, hein. Qu'est-ce que j'aurais envie de dire pour être bref et pour éviter les malentendus? Parce que ce Décalogue, il a souvent été des sources de malentendus. Je dirais la première chose, quand on apprend le Décalogue, quand les enfants apprennent les 10 commandements, facilement ils apprennent un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement. On oublie peut-être le plus important, c'est la première phrase. Je suis Yahvé, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. C'est-à-dire, ce qui donne fondement, raison d'être à ce Décalogue, c'est cette première phrase de Dieu. Dieu se pose comme étant celui qui a offert à Israël un enseignement, une structure à travers une loi. Donc, c'est parce que je suis Yahvé que tu dois accepter mes commandements. Cette importance au fond de cette sortie d'Égypte que Dieu a offert à son peuple, c'est ça qui justifie les 10 commandements. Donc, d'une certaine manière, on pourrait dire, même si après je vais faire des comparaisons, que ce trait-là est typique et unique dans l'histoire que nous connaissons des décalogues ou des commandements qui peuvent exister. Cette idée d'une loi très courte, hein, très, très ramassé, le fait qu'elle soit 10, c'est significatif, c'est une façon de retenir facilement. Et ça, c'est la première chose, cette dimension d'histoire. C'est parce que Dieu a libéré son peuple qui lui offre une loi. Donc il y a un lien qui est posé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de souligner, on pourrait dire, la brièveté des termes. C'est une loi qui est exposée de manière très brève. Et tout ce qui est prolongé, tout ce qui est long, est la marque d'un développement ultérieur. Au départ, c'était une loi très courte, comme elle apparaît dans certains des textes. Et ensuite, la troisième chose, et après nous pourrons prolonger et regarder des détails, la troisième chose que je note, c'est qu'elle est à la fois une loi qui engage envers son Dieu, mais aussi une loi qui engage envers son frère. Il y a une dualité de cette loi, c'est-à-dire à la fois une loi religieuse et puis une loi humaine. Et en ce sens-là, effectivement, on peut développer beaucoup de points, mais j'imagine qu'on va pouvoir rebondir maintenant sur les éléments plus précis du texte.
Alors, vous avez insisté effectivement sur cette première phrase du texte. Je la redis quand même pour nos auditeurs. Hein. « Je suis Yahvé, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Vous nous la présentez comme une sorte de clé de lecture, finalement, du décalogue. Mais je crois savoir qu'elle est même considérée comme le premier commandement chez les Juifs.
Oui, c'est vrai que les commandements juifs ont intégré, et à juste titre, je pense que nous l'avons trop vite abandonné, c'est-à-dire c'est plus facile de répéter « un seul Dieu tu adoreras », etc., d'une manière brève. Mais non, c'est fondamental, et dans notre foi, c'est essentiel qu'il y ait un enracinement dans une histoire. Dieu nous a donné à son peuple et puis à nous, avec le Christ, on y reviendra plus loin, mais nous a donné une loi qui est une loi à la fois universelle et une loi particulière. Et on pourrait dire, peut-être juste le rappeler en un mot, tous les peuples se sont donné des lois. Un peuple n'est apparu véritablement quand il s'est donné des lois. Or, à quoi sert la loi ? La fonction fondamentale d'une loi, c'est de protéger les petits, de protéger les faibles. C'est-à-dire, la loi définit des limites. Et la loi permet de condamner ceux qui enfreignent justement les limites. Et donc, c'est quelque chose qui est à la fois très humain. C'est pour ça que, dans l'histoire du monde, même avec la Révolution française, le décalogue est resté une référence absolue qui vaut pour tout homme. C'est-à-dire l'idée d'une justice, d'un respect de l'autre et de l'interdit, au fond, de faire du mal à l'autre au nom d'une loi qui est posée et qui est définitive d'une certaine manière et qui vaut pour tous les hommes. C'est pour ça que le décalogue n'est pas simplement une loi religieuse, c'est aussi ça, mais c'est aussi une loi humaine qui vaut pour tous les hommes à toutes les époques.
Et puis qui vient, en l'occurrence, sceller une alliance.
Bien sûr, c'est-à-dire, là on voit bien que, alors dans notre monde, peut-être qu'on a un peu perdu de vue l'alliance, c'est-à-dire quand on donne les lois qui engendrent nos cités, sont souvent des lois qui ne sont pas toujours justes. Hein. On voit bien, si vous avez quelques souvenirs de la Grèce, par exemple, la Grèce a eu des législations très très strictes, et on s'est posé souvent la question, quand les Grecs ont posé des lois, que faut-il faire de ceux qui sont les hors la loi, parce que la loi n'était pas valable pour tout le monde, et ceux qui pouvaient voler, ceux qui pouvaient tricher, c'était les petits, souvent les pauvres. La loi n'est valable que si elle est applicable à tout le monde. Et ici, dans des sociétés, dans les pays comme le nôtre, dans la France par exemple, la loi n'est pas facultative, c'est une loi qui vaut pour tout le monde, tous les Français. Et on pourrait dire, dans la Bible, c'est la même chose. La loi chrétienne ou la loi juive, elle vaut pour tous les croyants, parce que c'est une loi qui est un chemin d'espérance, une loi de vie.
Eh bien, nous sommes déjà arrivés au terme de cette première émission. Et donc, nous allons en rester là pour aujourd'hui. Merci, Père Alain Marchadour, pour nous avoir partagé vos connaissances. Merci à Christophe Aubry qui assurait la réalisation. Cette émission sera rediffusée dans la semaine et elle peut être réécoutée à tout moment en podcast sur le site web radioprésence.com. Si vous souhaitez réagir ou nous interroger, vous pouvez nous envoyer un mail à selonlesecritures@radioprésence.com. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la suite donc de cette étude du décalogue, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Selon les Écritures. Au revoir à tous et à très bientôt sur notre antenne.